VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du mardi 21 juin 2022. Avec vous, Eric Manilakiza. Voici d'abord le sommaire. Au Burkina, création de deux zones d'intérêt militaire dans le nord et l'est du pays où toute présence humaine est interdite. Le sommet des 54 membres du Commonwealth se tiendra vendredi et samedi à Kigali au Rwanda. En Tunisie, le projet de nouvelle constitution exclut d'inscrire l'islam comme religion d'État. Un référendum est prévu le 25 juillet. En Israël, le gouvernement de Naftali Bennett veut dissoudre le Parlement pour convoquer des élections anticipées à l'automne. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Burkina Faso, le président de la transition, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a décidé de la création de deux zones d'intérêt militaire où toute présence humaine est interdite. C'est dans le nord et l'est du pays, afin de lutter contre les violences djihadistes meurtrières. Jacques Aristide.
Les régions concernées sont une partie de la province du Soum, dans le nord, frontalière avec le Mali, et les réserves protégées entre Pama et le parc du W dans l'est du pays, réputées pour être des repères de djihadistes. Pour le Conseil supérieur de défense nationale, les deux zones d'intérêt militaire signifient davantage d'efficacité dans les épreuves de lutte contre ce qui est décrit comme l'hydre terroriste. Toute activité ou présence humaine sera interdite dans ces régions au risque de s'exposer aux opérations militaires qui seront conduites sous peu, d'après le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni, commandant des opérations. Le Conseil a également créé une brigade de veille de défense patriotique qui va regrouper les volontaires engagés dans le combat anti-djihadiste à travers le pays. Le lieutenant-colonel Bamouni a aussi prévenu que tout membre des forces armées qui abandonnerait sa position où son matériel fera l'objet de poursuites disciplinaires et pénales. Ces annonces interviennent 10 jours après le massacre de Seitenga dans le nord, où au moins 86 civils ont été tués dans l'une des pires tueries de l'histoire du pays.
Des dizaines de Maliens ont manifesté mardi à Bankass, dans le centre du pays, pour réclamer la protection de l'État après le massacre attribué à des djihadistes de plus de 130 civils dans des villages voisins. La recherche de disparus se poursuit. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a décrété 3 jours de deuil. La classe politique malienne a unanimement exprimé sa compassion tout en se ralliant une nouvelle fois autour des forces armées. Et la France a condamné ce massacre perpétré dans le centre du Mali et s'est dite gravement préoccupée par la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays. Paris, qui avait déployé des milliers de militaires au Mali dans le cadre de son opération anti-djihadiste Barkhane au Sahel, est en train de retirer ses troupes. Au moins 5 personnes, dont 4 enfants, sont mortes dans des inondations à Abidjan après une nuit de pluie torrentielle, ont annoncé mardi les pompiers mobilisés dans les nombreux quartiers de la capitale économique ivoirienne touchés. Ils indiquent, dans un bref point de situation, que les opérations se poursuivent. L'annonce lundi à Nairobi du déploiement d'une force régionale dans l'est de la RDC est accueillie avec une grande méfiance, voire une franche hostilité dans les provinces concernées qui demandent plutôt une réforme et un renforcement de leur armée nationale. Dans une lettre au président de RDC, Félix Tshisekedi, le mouvement citoyen Lucha appelle depuis Goma, chef-lieu du Nord Kivu, à y renoncer. Cela n'apportera ni la stabilité ni la paix et risque d'aggraver la situation, met en garde le docteur Denis Mukwege, qui appelle aussi à une réforme des FRDC. Les dirigeants des 54 pays membres de Commonwealth se réunissent cette semaine à Kigali au Rwanda. Le sommet, initialement prévu en juin 2020, a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie. Les précisions de Jean-Roger Bion.
La reine Elisabeth, 96 ans, a toujours présidé la réunion des chefs de gouvernement depuis son arrivée sur le trône en 1952, mais sera pour la première fois cette année remplacée par son fils, le prince Charles, pour les rencontres prévues vendredi et samedi à Kigali. Ce sommet doit explorer de nouvelles opportunités et dresser des défis communs pour le bien-être des générations futures, selon l'organisation. Le changement climatique et la manière de reconstruire l'économie mondiale face à l'impact de la pandémie de COVID-19 et de la guerre en Ukraine vont figurer en bonne place à l'ordre du jour. Un projet ambitieux pour un Commonwealth dont le rôle et la pertinence sont de plus en plus remis en question à une période de transition pour la monarchie britannique et de remise en question du passé colonial. À Kigali, les drapeaux des 54 pays membres du Commonwealth flottent à l'aéroport, les écoles sont fermées et de nombreuses routes sont bloquées avec un important dispositif de sécurité autour du centre des conventions qui va accueillir la rencontre.
Le président rwandais Paul Kagame a estimé mardi que l'accord controversé avec Londres pour accueillir des migrants illégaux expulsés du Royaume-Uni pouvait encore être appliqué et mis en place avec d'autres pays, le système d'asile étant défectueux. Je pense que cet accord est toujours en vigueur et pourrait être mis en œuvre, a déclaré Kagame en visioconférence lors du Qatar Economic Forum à Doha. Il a notamment évoqué l'accueil de plus de 1000 Libyens en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le principal parti d'opposition en Afrique du Sud a indiqué mardi demander une enquête du FBI sur une mystérieuse affaire de cambriolage qui gêne le président Cyril Ramaphosa, accusé de blanchiment et corruption. L'ex-chef du renseignement sud-africain Arthur Fraser accuse le président d'avoir organisé l'enlèvement des suspects et leur interrogatoire dans sa propriété avant de les corrompre pour acheter leur silence. En Tunisie, le président Kais Saied confirme que l'islam ne sera pas inscrit comme religion d'État dans la nouvelle constitution qui soumettra à référendum le 25 juillet. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Dans la prochaine constitution de la Tunisie, nous ne parlerons pas d'un État dont la religion est l'islam, mais de son appartenance à la Oumma, c'est-à-dire une nation dont la religion est l'islam, a déclaré le président Kais Saied, précisant que la Oumma, la nation, et l'État sont deux choses différentes. Un projet de nouvelle constitution lui a été remis hier et qu'il doit valider avant le référendum du 25 juillet. Le premier article de la constitution actuelle, adopté en 2014, 3 ans après la chute de Zine El Abidine Ben Ali, stipule, tout comme celle de 1959, que la Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, l'islam est sa religion, l'arabe sa langue et la République son régime. Ce projet de charte fondamentale a été expurgé de toute référence à l'islam pour combattre les partis d'inspiration islamiste comme Ennahda de Rachid Ghannouchi. Certaines associations tunisiennes accusent M. Saied de chercher à faire adopter un texte taillé sur mesure.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël se dirige vers des élections législatives anticipées. Un an à peine après son arrivée au pouvoir, la coalition menée par le Premier ministre Naftali Bennett a annoncé son intention de dissoudre le Parlement pour provoquer un cinquième scrutin en moins de 4 ans. Le point avec Abdelrahman Dia.
Le premier ministre israélien Naftali Bennett, aux côtés de son allié Yair Lapid, ministre des Affaires étrangères, a annoncé l'intention de dissoudre le Parlement. Messieurs Bennett et Lapid avaient réuni en juin 2021 une coalition unique dans l'histoire d'Israël, rassemblant des partis de droite, de centre, de gauche et pour la première fois une formation arabe, afin de mettre un terme à 12 ans de règne de Benjamin Netanyahou à la tête du gouvernement. Si le projet de loi visant à dissoudre le Parlement est adopté par les députés, Yair Lapid deviendra ainsi nouveau Premier ministre d'Israël jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement comme le prévoit leur accord. La coalition a trébuché sur la question du renouvellement de la loi sur les colons qui permet l'application des lois israéliennes aux plus de 475 000 colons juifs vivant en Cisjordanie occupée. L'opposition, qui soutient pourtant en grande partie cette loi, a infligé le 6 juin un camouflet à la coalition en réunissant une majorité de voix contre le renouvellement de cette loi. Deux députés arabes, membres de la coalition, ont voté contre le projet de loi, remettant ainsi en cause la stabilité du gouvernement dirigé par Naftali Bennett.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Claire Morin-Gibourg.
Au Sénégal, les débarquements de pêche ont enregistré une hausse de 2,7% au premier trimestre de 2022, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques. Cette hausse est entièrement due à la pêche artisanale, qui a progressé de 18%. La pêche industrielle a, elle, baissé de 19,5%. Au Cameroun, le ministre des Finances et son homologue en charge des domaines du cadastre et des affaires foncières viennent d'annoncer le recensement du patrimoine de l'État. L'opération va commencer par Douala, la capitale économique du Cameroun, selon leur communiqué qui stipule que cette campagne de recensement et d'évaluation des immobilisations corporelles, c'est-à-dire les terrains, bâtiments et matériels roulants appartenant à l'État, débutera le 1er juillet dans le département du Wouri. Les turbulences sur le marché du pétrole devraient durer 3 à 5 ans à cause du sous-investissement et de la pandémie du coronavirus, a estimé Darren Woods, le patron du géant américain des hydrocarbures, ExxonMobil, lors d'un forum organisé au Qatar. Nous allons voir beaucoup de volatilité et de rupture sur le marché si nous n'avons pas des politiques plus réfléchies, a-t-il prédit.
Sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec le football d'abord. Sadio Mané passe sa visite médicale à Munich.
Oui, l'attaquant sénégalais de Liverpool est arrivé dans la capitale allemande pour y passer une visite médicale avant sa signature attendue avec le Bayern Munich. C'est le quotidien Bild et le magazine spécialisé Kicker qui l'affirment. Arrivé à bord d'un jet privé, Sadio Mané, 30 ans, a été conduit dans un hôpital de la ville où l'attendait un médecin du Bayern Munich. Il s'agit d'un pas supplémentaire vers son transfert dans le club champion d'Allemagne pour un montant estimé à 40 millions d'euros environ. Il pourrait signer pour 3 saisons et sa première conférence de presse sous ses nouvelles couleurs aurait lieu dès demain mercredi. Candidat au Ballon d'Or cette année, le vainqueur de la CAN avec le Sénégal et finaliste de la Ligue des Champions avec Liverpool renforcerait un club qui s'apprête à perdre son buteur vedette, le Polonais Robert Lewandowski.
Enquête sur le transfert du Nigérian Victor Osimhen à Naples.
Oui, la justice italienne a ouvert une enquête sur de possibles fraudes comptables du club de Naples dans le cadre du transfert de l'attaquant nigérian arrivé à l'été 2020 en provenance de Lille. Des perquisitions ont eu lieu dans les bureaux du Napoli visant à recueillir des documents utiles en relation avec des comportements illégaux présumés liés à la vente et l'achat de certains joueurs à l'été 2020, indique le parquet de Naples dans un communiqué. Le parquet indique que les perquisitions répondent à des demandes émanant des autorités judiciaires italiennes et françaises. Le club de Lille a aussi été l'objet d'une perquisition dans le dossier Osimhen à main. Victor Osimhen a rejoint Naples en 2020 dans le cadre d'un transfert estimé à environ 70 millions d'euros. Mais le Napoli a fait baisser la facture en vendant au club français 4 joueurs pour environ 20 millions d'euros. Cette somme est considérée par la presse comme largement surévaluée au vu du profil des joueurs en question, dont 3 n'ont jamais évolué à Lille.
Tennis, Hans Jaber comblé de jouer en double avec Serena Williams à Eastbourne en Angleterre.
La Tunisienne qui jouera cette semaine en double avec l'Américaine Serena Williams au tournoi d'Eastbourne trépigne d'impatience pour un rendez-vous avec l'ex-reine mondiale du tennis qu'elle qualifie d'incroyable. Afin de préparer Wimbledon, son tournoi fétiche qu'elle a remporté cette fois, Serena Williams a décidé de disputer le double femme à Eastbourne. « Je sais garder les secrets, j'étais au courant depuis Roland-Garros », a confié la Tunisienne qui dit n'avoir pas hésité une seule seconde avant d'accepter. Elle a été une telle source d'inspiration que lorsque j'ai su que nous allons jouer ensemble en double. Cela a été une nouvelle énorme et incroyable, raconte Hans Jaber.
C'était les sports avec Yacouba Ouedraogo.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manerkiza de retour avec vous. Place au dossier du jour. Au Mali, des dizaines de personnes ont manifesté ce mardi à Bankass, dans le centre du pays, pour réclamer la protection de l'État. Cette manifestation intervient après le massacre attribué à des djihadistes dans des villages voisins où la recherche de disparus se poursuit. Selon le gouvernement, 132 civils ont été tués par des hommes de la Katiba Massina. Le groupe du prédicateur Peul Amadou Koufa a dit à la Sagou et dans deux localités environnantes à quelques kilomètres de Bankass. Yacouba Ouedraogo a joint Amadou Yaro, un témoin sur place à Bankass.
Vous savez, la commune de Djalazago est la plus grande commune du cercle de Bankass. Donc le samedi 18 juin, aux environs de 16h30, la population a été victime d'une attaque des hommes armés qui ont encerclé les villages et qui ont attaqué des torts à travers et qui se sont empris à tous les magasins, à toutes les boutiques de la ville de Djalazago. Ils ont kidnappé beaucoup d'hommes qu'ils ont rencontrés sur le chemin.
Est-ce que vous avez une idée sur le nombre de personnes qui ont été tuées ou enlevées, comme vous le dites?
Le nombre de tués officiels est de 132 morts qui a été constaté et qui a été enterré.
132 morts constatés par le gouvernement ou les populations locales?
Par le gouvernement et les populations locales. C'est 132 personnes qui ont été enterrées et par le gouvernement et par la population locale.
Est-ce que vous avez eu des nouvelles des personnes qui ont été enlevées, comme vous le dites?
Non, pour le moment, certains qui ont été enlevés, on n'a pas de leurs nouvelles. En tout cas, on les a amenés.
Vous avez une idée sur le nombre de personnes enlevées?
Non, même pas. Même pas.
Il y a eu des mouvements d'humeur ou, si vous voulez, des manifestations à Bankass. Pourquoi?
La société civile de Bankass, ce matin, qui a dit en soutien à la population de Djalazago, aux communautés de Djalazago, qui ont décidé de barricader les routes, d'observer une désobéissance civile.
Qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte sur le terrain en dehors de barricader les routes?
En dehors des barricades, ils ont fermé tous les services techniques de l'État, disent que personne ne travaille, jusqu'à ce que l'État vienne les écouter.
Et ça va durer combien de temps?
Il n'y a pas de durée, c'est une durée limitée qu'ils ont dit, les organisateurs. En tout cas, ils sont déjà en pourparlers avec les missionnaires de l'État.
Et qu'est-ce qu'ils réclament aux autorités maliennes?
Non, ils demandent beaucoup plus d'avancement de l'État malien à sécuriser beaucoup plus les populations locales.
Est-ce que les populations semblent être déçues de ce que les autorités maliennes mènent comme action dans la lutte contre le terrorisme justement dans leur localité?
Oui, tout à fait, tout à fait. Les populations veulent vraiment qu'on s'occupe d'eux. Ils veulent vraiment que l'État assure carrément la sécurité des personnes et des biens à tous les niveaux. Parce que cette situation qui vient de se dérouler dans la commune de Djalazago n'a laissé indifférents personnes. Ça a été très, très dur et horrible comme attaque djihadiste. Donc, vous voyez quoi.
Amadou Yaro, un témoin joint à Bankass, dans le centre du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
En RDC, certains réfugiés burundais installés dans le camp de Lusenda, au sud de Kivu, plaident pour le renforcement de mesures sécuritaires dans les collines autour de leur camp, l'amélioration des abris et la prise en charge de tous les élèves réfugiés de l'école secondaire. Ils l'ont dit à VOA Afrique, en marge de la journée mondiale dédiée aux réfugiés, célébrée chaque 20 juin de l'an. Sur place, notre envoyé spécial à Lusenda, Ernest Muhero.
C'est un camp de réfugiés en pleine phase de stabilisation qui apparaît aux yeux en arrivant à Lusenda, près de 200 kilomètres au sud de la ville de Bukavu. Ici, plus question d'éternelles maisons en bâche blanche, mais des maisons en pisé et briques adobe, une véritable intégration locale au niveau des constructions des abris, avec une moyenne annuelle de 1500 nouvelles naissances d'enfants dans ces camps de Lusenda. Emmanuel Ntirampeba est réfugié à Lusenda. Il plaide pour une amélioration des abris.
Vous voyez qu'avec le soleil, avec la pluie, les bâches ne sont pas encore favorables pour un cas de ce temps. Il y a des réfugiés jusque-là qui réclament que le système d'abri puisse changer et que les réfugiés puissent avoir au moins des tôles.
Après 7 ans d'existence de ces camps de réfugiés burundais, le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié ACER et son partenaire étatique congolais, la CNR, Commission nationale pour le réfugié, s'activent avec des activités de cohabitation pacifique et d'autoprise en charge pour rendre le plus autonome possible le réfugié qui souhaite rester en RDC comme pays d'accueil. Certains réfugiés font déjà la pêche, l'élevage, le métier, le petit commerce, la troque, les taxis motos et l'agriculture. Mais depuis peu, certains réfugiés agriculteurs affirment avoir eu des menaces sur les collines surplombant le camp de Lucinda. Cette dame réfugiée qui a requis l'anonymat plaide pour la scolarisation gratuite à l'école secondaire et pour plus de sécurité autour du camp en cette période.
Et la plupart des enfants qui étaient à l'école ne sont pas assistés, alors que les réfugiés ne sont pas capables de faire vivre leur famille et de faire scolariser les enfants en même temps. Même les réfugiés qui sont des cultivateurs, la situation sécuritaire ne facilite pas leur travail. Il y a des personnes armées.
L'administrateur du camp de Lucinda, Didier Numbi, rassure que toutes les dispositions sécuritaires sont garanties aux réfugiés à l'intérieur du camp. Mais pour ceux qui fréquentent les collines actuellement à risque, l'administrateur Numbi les appelle momentanément à éviter d'y aller pour des raisons de sécurité.
Ce que nous déconseillons, c'est juste les collines qui surplombent le camp. Mais les autres endroits, bon, ils peuvent y aller. Et que vraiment c'est une situation passagère et lorsqu'il y aura accalmie, ils pourront continuer avec leurs activités. Et ce n'est pas seulement pour les réfugiés, et même pour les Congolais, parce que quand on est là-bas, ça ne choisit pas.
Signalons que ces camps de Lucinda de 220 hectares subdivisés en 5 sites avec 50 villages hébergent plus de 26 400 occupants, dont plus de 14 000 femmes, plus de 19 000 enfants et 571 personnes de troisième âge. Selon les statistiques sur place, le HACER prend en charge la scolarité de plus de 8 000 enfants réfugiés de l'école primaire, mais les gaps restent pour certains élèves de l'école secondaire, particulièrement le garçon. Ernest Mouero en direct de Lucinda pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine. Zoom sur la situation des réfugiés dans le monde avec la célébration en début de semaine de la journée qui leur est dédiée. Cette année, le thème porte sur le droit de demander l'asile alors que de plus en plus de pays durcissent les conditions d'entrée des personnes forcées de fuir leur foyer. Les conflits armés ont poussé près de 90 millions de personnes vers les chemins de l'exil. Comment continuer à garantir le droit d'asile dans un contexte de restrictions de plus en plus marquées? Comment limiter le flux de réfugiés alors que les foyers de tension se multiplient dans le monde? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En Côte d'Ivoire, plus de 5 830 cas de grossesse sont recensés en milieu scolaire. C'est un véritable défi pour l'éducation nationale qui souhaite son éradication. Notre correspondante en Côte d'Ivoire, Aïcha Diarra, fait le point.
Les chiffres sont assez révélateurs de l'ampleur du fléau. Près de 45 des filles qui ont contracté une grossesse avaient moins de 15 ans. Fatou Keïta s'en souvient, elle avait à peine 15 ans, était en classe de 5e. Aujourd'hui, elle est âgée de 56 ans et mère de 6 enfants, tous du même père, l'auteur de sa grossesse dans le temps.
Contrairement à ce que les gens pensent, l'élève même qui est enceinte souffre beaucoup. L'élève souffre plus que le parent même. Bon, tu te retrouves dedans, la naïveté, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu es obligé de te cacher, tu as même honte d'aller à l'école. Tu tentes même souvent même d'avorter, tu tentes de te suicider. Bon, tu as peur de la pression des parents. Vraiment, ce n'est pas facile.
Des difficultés qui ont un impact sur leur scolarité et parfois leur avenir. Eric Kouakou enseigne le français dans un lycée d'Abidjan.
Ces élèves, la plupart du temps, ils ont du mal à suivre leurs cours et c'est vraiment difficile. Mais on ne peut pas aussi les faire sortir de la classe puisqu'il faut qu'elles soient présentes au moins pour suivre ce qui se fait. Dans notre école, il y a eu un certain nombre de cas. Il y a des cas où les filles en question venaient suivre leurs cours et travaillaient bien. Il faut dire que ça agit effectivement sur leur rendement, mais quand même, elles arrivent à tenir le coup.
Selon lui, pour arriver à bout de ce problème, qu'il faut élargir le regard sur les paramètres qui l'engendrent.
C'est un problème de société. Qu'est-ce qu'on sait des filles qui ne viennent pas à l'école qui ont aussi des grossesses? Voilà, c'est pas forcément parce qu'elles viennent à l'école qu'elles ont ces grossesses. La plupart du temps, même, c'est avec des gens qui sont hors du système scolaire qu'elles prennent ces grossesses-là. Effectivement, il ne faut pas exclure que dans le système aussi, il y a des cas. C'est un problème de société. C'est un problème beaucoup plus global. C'est un problème d'éducation sexuelle. C'est un problème d'éducation en général. Personnellement, je pense que quand on dit grossesse en cours de scolarité, c'est plus approprié que de dire grossesse en milieu scolaire.
Des chiffres qui ont augmenté d'une année scolaire à l'autre. De 4851 cas de grossesse en 2020 à 5600 cas de grossesse en 2021 et cette année s'est passée à 5833. Pourtant, le gouvernement ivoirien prône zéro grossesse en milieu scolaire. C'est Edou Diallo de l'ONG Centre de solidarité d'action sociale à Boaki.
Il y a le facteur des rapports sexuels précoces, le multipartenariat sexuel avec une faible utilisation des préservatifs. Il y a les rapports transgénérationnels, ces jeunes filles-là souvent qui ont des rapports souvent avec des personnes un peu plus âgées, donc elles n'ont pas le pouvoir de négocier les préservatifs. La faible communication parents-enfants sur les méthodes contraceptives. Parce que dans nos communautés, c'est encore mal perçu pour les parents de parler de ça avec leurs enfants. Et puis, à petite échelle, les VBG, voilà, notamment les cas de viol qui peuvent engendrer des grossesses précoces. Voilà, souvent des situations où les enfants ont peur de dire à leurs parents qu'ils ont été violés et finalement qu'ils gardent. Alors que la première fois qu'elles ont ça, ça peut conduire à des grossesses précoces.
Les zones rurales sont les plus touchées par ce phénomène. Et les campagnes successives depuis plusieurs années n'ont pas encore réussi à faire baisser le fléau. Aïcha Diarra, Abidjan, pour VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Dans la nouvelle constitution tunisienne, l'islam ne sera plus la religion d'État. Le président Kais Saied va soumettre à référendum le 25 juillet la nouvelle loi fondamentale. La nouvelle constitution doit remplacer celle de 2014, source de conflits récurrents entre les branches exécutives et législatives. Jean-Roger Bion a joint à Genève l'analyste tunisien Riyad Sidaoui.
Nous savons bien que le président Kais Saied était un professeur de droit constitutionnel à l'université de Tunis. Donc là, il maîtrise les concepts, les lois, le droit, les constitutions. Et ce qu'il a dit, je pense, c'est logique qu'il n'y a pas un État musulman, un État chrétien, mais il y a des peuples, des nations ommah musulmanes. Et il a donné l'exemple, il a dit, nous savons bien qu'il est en conflit avec le mouvement islamiste al-Nahda, et le mouvement islamiste al-Nahda cherche des brèches dans le discours du président Kais Saied ou dans la constitution tunisienne afin de l'attaquer sur le plan religieux.
Alors justement, M. Sidaoui, les critiques du président Saïd disent qu'il cherche plutôt à amoindrir la force politique représentée par le parti Ennahda. Qu'en dites-vous?
Nous savons bien que le système ou le régime politique tunisien parlementaire est arrivé à l'impasse. Il est totalement bloqué. À titre d'exemple, pendant 10 ans, la Tunisie a connu 10 gouvernements pendant 10 ans. Parfois, le ministre ne peut pas rester dans son poste plus que quelques semaines, d'où l'instabilité. La qualité du régime parlementaire, c'est d'établir une rupture avec le pouvoir de l'individu, avec le pouvoir du président. Mais le défaut, c'est l'instabilité politique. Les islamistes de Nava savent bien qu'ils vont perdre toute élection quand il s'agit du système présidentiel. Ils ne peuvent pas gagner les élections présidentielles, mais ils ont plus de chances pendant les élections législatives. C'est pour cette raison que les islamistes de Nava, depuis la révolution, depuis 2011, ne veulent pas de système présidentiel.
Que dites-vous de ceux qui pensent que la gouvernance de M. Saied est empreinte de dérives autoritaires?
L'opinion publique tunisienne est toujours avec Kais Saied. Vous me posez la question, comment vous le savez? Parce que chaque fois, les partis d'opposition à leur tête Nava voulaient mobiliser la rue tunisienne, mais elle n'arrive pas. On parle toujours des centaines de manifestants.
Alors justement, le référendum sur la Constitution est prévu le 25 juillet. Pour un président qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas de base politique et qui s'est aliéné beaucoup de forces de la société civile, comme les magistrats par exemple, comment compte-t-il parvenir à faire passer son projet?
Dans toute démocratie, c'est le peuple qui est l'arbitre, c'est le peuple tunisien qui est l'arbitre. dans ce conflit entre la présidence et le Parlement. On a un rendez-vous le 25 juillet, un rendez-vous électoral afin d'accepter oui ou non la nouvelle constitution. Et deuxième rendez-vous électoral sur le 17 décembre 2022 afin d'élire un Parlement tunisien.
C'était Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève, en Suisse. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Gisèle Morissin, Lionel Lunenagahima, à la présentation, Eric Manirakidza. Merci Van Le Monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée. À l'écoute.